Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga et nous. Je suis Laura Châtelain, journaliste spécialisée en santé et pratiquante de yoga depuis plusieurs années. Tous les 15 jours, je reçois à mon micro des profs de yoga passionnés pour explorer comment cette pratique infuse nos vies et notre quotidien, change notre rapport au corps ou améliore notre santé. Ce mois-ci, j'ai décidé de vous proposer un épisode en deux parties avec deux profs de yoga passionnés de musique qui ont chacun leur façon de l'intégrer à leurs cours et à leurs pratiques. Pour commencer cette semaine, je discute avec Aurélie Louis-Alexandre, la cofondatrice de Flowless Yoga, autour du vinyasa en musique. Elle nous explique comment elle construit ses séances autour de la musique pour libérer le mouvement. Et dans 15 jours, c'est Tom Lehmann, qui est chanteur, compositeur et prof de yoga, qui nous dira comment il compose et intègre des morceaux dans les pratiques de yin yoga ou de méditation. Je vous laisse découvrir mon échange avec Aurélie. Très bonne écoute. Bonjour Aurélie, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour parler de deux de tes passions, le yoga et la musique.
Bonjour Laura, merci à toi de me recevoir.
Mais je t'en prie. Est-ce que tu peux nous dire pour commencer comment le yoga est entré dans ta vie ?
Alors le yoga est rentré dans ma vie à deux reprises. J'avais déjà essayé quand j'avais 13 ans. Ma mère m'avait inscrit à un cours de Hatha Yoga. Enfin, je crois même qu'elle avait pris jusqu'à une subscription pour un semestre, je crois.
Ah oui, sans savoir si ça allait te plaire, c'était audacieux.
Voilà, oui. Surtout qu'à l'époque, j'étais plus dans l'athlétisme, j'étais en club. Enfin, non pas que les deux soient pas compatibles, mais en étant adolescente, je pense que c'était encore très différent pour moi, en tout cas. Donc, j'avais essayé le cours avec ma meilleure amie et j'étais pas trop dedans, quoi. Je me suis pratiquement ennuyée, hein, pour être honnête.
Donc la première expérience n'a pas été une réussite.
Voilà. Par contre, la deuxième fois où j'ai été chercher le yoga, pour le coup, j'avais 21 ans. 21 ans, et je pense que beaucoup pourraient se reconnaître, mais c'est la situation de la jeune active qui vit dans sa première colocation. Ça ne va pas trop bien dans la vie sentimentale. S'ennuie déjà dans son métier et se retrouve pas et est très stressée, au fait. C'était celle que j'étais. Et au fait, en plus du running que je faisais déjà de façon très régulière, j'avais besoin de quelque chose de supplémentaire qui au fait, m'aiderait réellement à lâcher prise et à être détendue, je pense. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai cherché yoga en ligne. Je suis tombée sur un super site canadien, doyogawithme.com. C'est aussi simple que ça. Et au fait, j'ai fait une première séance qui a duré une trentaine de minutes. Et honnêtement, j'ai trouvé ça hyper dur parce que jamais j'avais articulé mon corps de cette façon-là. Je me demandais même si j'avais des muscles. et au final, ça a été là un vrai coup de cœur. Et de 30 minutes, parfois c'était des séances de 45, d'autres de 1 heure, parfois 20 minutes. Et ça s'est vraiment intégré à mon quotidien, on va dire.
D'accord. Et donc uniquement par des séances en ligne au début, tu t'es pas inscrite dans un studio, des cours
J'ai jamais mis le pied dans un studio pendant ma pratique.
Avant d'être prof, tu n'avais jamais mis les pieds dans un studio ?
Non, jusqu'à ma formation, j'étais autodidacte.
D'accord. Et à quel moment, alors, justement, tu as décidé de passer d'une pratique chez toi, devant ton ordi, à te dire « je vais faire une formation en yoga » ?
Ça a été lent. Au fait, c'est pour mettre dans le contexte, je n'ai pas mis les pieds dans un studio parce que je ne pensais pas avoir ma place. Comme beaucoup de femmes et beaucoup d'élèves, je sais que avec qui j'ai pu échanger sur le sujet, je me sentais pas à ma place parce que j'ai pas le stéréotype de la femme qui pratique du yoga, de prime abord, et du coup je me sentais pas à l'aise de me dire j'y vais. Et puis en plus, comme j'ai commencé en ligne, je me suis dit ça se peut que la prof ou le prof va te dire oula, toi c'est n'importe quoi. Enfin, vraiment, j'avais pas du tout confiance en moi.
Ouais, c'est ça qui te freinait, c'est le manque de confiance. Enfin, en quoi t'avais l'impression de pas avoir ta place dans ces studios là
Ouais, le manque de confiance, c'est le manque de reconnaissance de mon profil au sein de la communauté yoga à l'époque, qui a évolué quand même, il faut le dire, en 10 ans, hein, mais en tout cas à Paris, je me sentais pas à l'aise et je voyais pas quelqu'un comme moi dans ce que je voyais dans les studios, dans les publicités, les choses, c'était pas même encore aujourd'hui, hein, pour être honnête, il y a des studios, ils sont géniaux, mais il n'y a pas de diversité, quoi. Et c'est difficile quand on commence quelque chose comme ça seul de se dire, oui, on y va. Ou alors, encore une fois, c'est mon ressenti là-dessus, quoi.
D'accord. Et oui, ça t'a quand même donné envie de te former, d'approfondir cette pratique.
Oui, du coup, pour répondre à ta question, ça m'a quand même donné envie parce que j'ai compris très rapidement les bienfaits de la pratique sur moi et au-delà, en fait, de la partie physique que représente le yoga, j'ai aussi vu comment ça m'apaisait dans la vie en général et c'est devenu un mode de vie, en fait, plus qu'autre chose. Et j'avais à cœur de le partager, donc j'ai eu des meilleurs amis à moi qui étaient mes cobayes pendant un bon bout de temps. Il y a eu de la réflexion, parfois de l'abandon, parfois du « ah mais non, je peux pas », avant de me lancer, du coup, environ 4 ans plus tard, dans l'idée de me dire « bah là, je vais essayer, je veux être prof ».
Et alors, quand tu es devenu prof, quel type de cours tu as donné et quel type de cours tu donnes aujourd'hui ?
Alors, j'ai suivi une formation de 100 heures de Hatha et de Vinyasa, mais mon premier amour de pratique, c'est le Vinyasa, car il y a une certaine liberté dans l'enseignement que l'on n'a pas dans tous les styles de yoga. Pour moi, ça me permet d'exprimer, au fait, mon humeur du jour, ça permet d'exprimer un thème qui me tient à cœur d'une façon ou d'une autre et en revisitant tout le temps, en fait. Donc, c'est ce que j'ai appris et c'est ce que j'enseigne encore aujourd'hui, en plus du yoga pré- et post-natal que j'ai appris également en 2019.
Et du coup, alors à l'heure actuelle, tu proposes uniquement des cours de vinyasa et est-ce que c'est toujours en musique, pour en venir à notre sujet du jour ?
Oui, je propose que des cours de vinyasa. C'est tout le temps en musique. Les rares fois où j'ai pas fait en musique, je crois que ça a été durant quelques jours du confinement et c'était vraiment les tout premiers. Je parle peut-être de la première semaine du confinement au début de la pandémie en mars 2020. Mais sinon, non, c'est toujours en musique parce que moi, la musique, avant qu'on se parle, j'avais de la musique dans les oreilles. Ça fait partie intégrante de ma vie.
Ouais, c'est ça, toi, la musique, c'est quelque chose qui est toujours avec toi au quotidien. Tu en écoutes beaucoup, tu danses. Est-ce que tu as des styles de prédilection, du coup ?
Alors, je m'estime assez éclectique parce que effectivement, j'adore le R&B, j'adore le rap, surtout international. De la trap aussi, des choses comme ça. Mais je peux écouter du rock indé, du rock indie ou de l'électro. J'ai déjà écouté du métal, il y a des morceaux que j'apprécie. Enfin, je ne m'arrête pas qu'à un style. Et j'apprends même, depuis que j'ai commencé à enseigner, parfois à joindre des styles ensemble sur une même playlist parce qu'ils apportent chacun quelque chose de différent et en termes de mouvement aussi, pour moi, je pense à une musique et je pense au mouvement, à la posture qu'on pourrait faire dessus, donc je m'arrête pas qu'à un style de musique.
D'accord, tous les styles peuvent t'inspirer. Et est-ce que tu as toujours intégré de la musique dans tes pratiques ou dans tes cours ou est-ce que c'est venu avec le temps ?
Alors, je l'ai toujours fait, mais pour être très honnête, j'ai pas toujours su comment faire. Au départ, pour revenir sur cette idée de rentrer dans une case en étant prof, j'ai voulu un de mes premiers cours, un de mes premiers cours sur Paris. J'ai fait un ensemble entre de la musique classique et du rock doux, ouais. Que j'aime beaucoup, mais qui n'allait pas du tout avec mon style. Et je me suis un peu attendrie pour ce cours-là. J'ai essayé d'avoir un discours et c'est pas ma façon de parler, c'est pas ma façon de communiquer. Ça s'est ressenti au fait dans ce cours-là. Donc,
oui, t'étais pas toi ni dans le discours, ni dans la pratique, ni dans la musique.
Voilà, c'est ça. Et au fur et à mesure, au fait, j'ai commencé à un peu plus étudier déjà l'enchaînement de la musique, pourquoi celle-ci, etc. Donc oui, non, ça s'est construit. Ça s'est construit, cette façon de diffuser la musique dans mes cours.
Mais en tout cas, pour toi, même quand tu pratiquais, c'était naturel de le faire plutôt en musique et pas en silence.
Exactement, exactement. Parce que même si j'appréciais beaucoup au départ de la pratique sans musique, parce qu'il y avait toute cette partie découverte et que de toute façon, si je vais en studio, il y a des cours, il n'y a pas de musique, ça ne me dérange pas. Mais quand je suis, par exemple, chez moi, la musique, encore une fois, c'est... Enfin, parfois, ça peut me transcender. Donc, je m'imagine pas sans.
C'est vrai que pour l'instant, les cours en musique de yoga, c'est encore plutôt assez rare en France. J'imagine que c'est peut-être beaucoup plus fréquent dans d'autres pays comme les États-Unis. Est-ce que tu as pu expérimenter, toi, avant d'en donner, d'autres cours en musique ? Est-ce que ce que tu proposes, c'est du hip-hop yoga, d'ailleurs, dont on entend parler pas mal ?
Oui, je fais du hip-hop yoga et au fait, moi je le fais via mon concept que j'ai cofondé avec une chère amie à moi qui s'appelle Flawless Yoga, du coup. Et avec Flawless Yoga, on fait, depuis en tout cas la création, des flows de hip-hop vinyasa. Et on explore un peu voilà, toute une bibliothèque musicale fantastique, car elle est journaliste spécialisée pardon, dans la musique. Et elle a un savoir-faire avec les BPM, qui sont les battements par minute qui sont hyper importants au final. Et c'est grâce à elle que j'ai appris ça. Mais voilà, elle a ce savoir-faire. Et ensemble, au fait, on a fait des cours où elle était en train de faire le DJ set en live pendant que moi, je donnais le cours. Donc, on a commencé comme ça. On appelait ça des chapitres. C'était des événements au départ. Très vite, on a essayé et on a installé des cours hebdomadaires. Et le temps qu'on installe ça, après, bah, y a eu la pandémie. mais oui, Flawless existe encore et j'ai même créé une extension de yoga pré- et post-natal pour les futures et les jeunes mamans, toujours avec cet accompagnement musical très axé à R&B, du coup avec un peu plus de douceur. Mmh. Et depuis la création de Flawless, j'ai appris à faire des playlists parce que Nao, mon ami dont je te parle, n'est pas tout le temps avec moi. Mais voilà, j'apprends de ce que j'ai vu avec elle et de mon expérience aussi, comment faire les choses pour que il y ait une histoire. Au fait, une fois qu'on rentre sur le tapis, on commence un peu à froid et puis on en ressort avec quelque chose, en tout cas, je l'espère, de plus chaleureux et avec une meilleure énergie à la fin de la pratique.
Ouais, alors effectivement, tu vas nous expliquer peut-être après comment tu construis tes séances en musique. Mais justement, pour toi, qu'est-ce que la musique, ça apporte à la pratique du vinyasa? Est-ce que ça aide à bouger plus librement, à lâcher prise plus facilement? Pour toi, quel est le bénéfice de la musique quand on pratique ce type de yoga?
Eh bien, tu l'as bien dit, mais le fait de lâcher prise plus rapidement. Parfois, le silence, ça peut être pesant pour nous. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé dans des moments de ma vie où j'étais pas bien, de ne pas accueillir le silence. Et la musique, du coup, permet de lancer une pratique avec un espèce de fil conducteur, en fait. On se laisse un peu guider par le rythme, en plus des indications que je donne pendant le cours et de la posture. La musique, oui, permet de s'évader, je pense, plus rapidement. Et puis aussi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je donne mes cours, de suivre le rythme. C'est-à-dire que on pourrait être, je ne sais pas, je vais dire, j'aime beaucoup faire des slow flow, donc c'est des cours avec un rythme plus lent qui reste vinyasa, mais on va plus explorer l'endurance respiratoire. La musique que je vais mettre derrière sera un peu plus douce, c'est du mid-tempo, et on va suivre ce tempo-là pour quelque part se donner un peu plus et explorer au fait nos capacités en dehors de notre zone de confort dans une posture de yoga et la pratique en général.
Mmh. Et quand tu dis que ça permet de s'évader, est-ce que ça permet quand même cette reconnexion au corps et aux sensations qui est quand même l'objectif, un des objectifs numéro un du yoga? Est-ce que ça ne peut pas aussi avoir un peu des écueils, le fait de pratiquer en musique et de justement d'être plus concentré sur le son que sur ses propres sensations? Enfin, comment tu ressens ça, toi?
Alors, j'imagine que c'est possible, mais comme je le dis beaucoup à mes élèves, il y a toujours une partie où on se recentre. En tout cas, moi, dans mon cours, j'invite toujours à commencer juste par respirer. Et j'estime qu'on peut apprécier une musique, mais la laisser aussi nous concentrer sur nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est un peu comme un parfum, ça apporte des émotions de sentir quelque chose, et une musique peut nous apporter des émotions. Et les émotions, c'est ce qu'on ressent aussi quand on fait des postures de yoga. Ah, ça tire, ah, c'est beaucoup, ah, c'est intense, ah, ça me fait du bien. Je pense que la musique peut nous permettre justement aussi de au contraire, se concentrer. Pour le coup, je pense à toutes les thérapies qu'on pourrait faire en musique, et en musique pure, hein. Pour le coup, là, je parle pas de chansons ou avec des paroles, mais je pense que il n'est pas impossible de se concentrer lorsqu'il y a de la musique. Et moi, je sais par exemple que je travaille en musique, alors en dehors de mes cours, mais pour tout ce que je pourrais faire, ne serait-ce que répondre à des mails, il y a des musiques que je vais mettre pour être concentré. je pense à Alzheimer ou bien la BO de Twin Peaks par exemple. Ouais.
Oui, après, ça, c'est vrai que c'est très personnel. Effectivement, tu as des gens qui ne peuvent pas se concentrer sans musique. Exactement. Et d'autres pour qui c'est l'inverse.
C'est ça.
Et par rapport au mouvement, est-ce que tu as l'impression, toi, en observant tes élèves, que ça les aide à être, oui, dans un mouvement peut-être qui est plus fluide, ce côté flow, justement, qu'on recherche dans ce type de cours ?
Eh bien, j'adore cette question, parce que c'est ce que je veux mettre en place le plus que possible, cette notion de fluidité, effectivement, du mouvement, car elle n'est pas simple. à acquérir cette notion. Et la fluidité en elle-même n'est pas donnée à tout le monde. Parce que quand on parle de fluidité au yoga, on va quand même parler aussi de souplesse. Mmh. Une certaine souplesse va faire qu'un mouvement sera plus rond, un peu plus élancé, quelque part même majestueux en fonction de la posture. Et je sais, je vois parfois des élèves être frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose comme je leur ai démontré. Mais je suis aussi là pour rappeler que moi, je donne une indication, mais je donne aussi toutes les indications pour voyager vers ce qui pourrait se passer lorsqu'on se décide à sortir de sa zone de confort et à gagner en fluidité, gagner en souplesse. Mais tout ne se fait pas en un seul cours. Et c'est aussi pour ça, je pense, que je revois beaucoup de personnes. C'est parce qu'elles comprennent que l'évolution passe par la régularité et l'acceptation de certaines conditions de son corps pour faire avec et trouver sa forme de fluidité, sa souplesse, sa mobilité, des choses comme ça.
Oui, puis cette fluidité, elle vient aussi avec la répétition dans le vinyasa. J'imagine que tu répètes un même flow plusieurs fois dans un cours et qu'on se laisse aller de plus en plus justement sur cette musique et qu'entre le premier flow et la troisième répétition, peut-être, il y a une grosse différence.
Alors, oui et non. Il y a des fois où il m'est arrivé effectivement de faire un flow répétitif et j'ai un cours que j'ai mis en place qui s'appelle le flow échelle. Donc, on va réellement répéter, on va partir d'une posture, par exemple, on va partir du chien tête en bas qui sera la posture de départ et on va toujours y revenir pour ajouter une transition puis une posture derrière.
D'accord.
Donc là, on est vraiment effectivement dans cette répétition et pour le coup, faire une playlist sur ce type de flow-là, c'est différent, c'est plus difficile. Parce que il faut choisir presque des chansons avec, on va dire, le même BPM, qui fait que dans le temps, il y aura une répétition qui sera similaire. Et avec le phénomène de répétition des gestes, des asanas, voilà, on va se sentir, je vais même permettre de dire, ambiancé par la musique pour aller plus loin dans son mouvement et puis se faire confiance, y croire et voir même, j'ai envie de dire, danser parce que c'est un... C'est une danse du corps aussi, le yoga, sauf que c'est, on va dire, plus carré, quelque part.
Oui, et c'est vrai que si on le voit comme une danse du corps, et c'est vrai que c'est joli cette expression, forcément, la musique a tout son sens.
Exactement. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis fan du vinyasa.
Ouais. Et par rapport au souffle, qu'est-ce que tu observes? Parce que finalement, est-ce que le fait de pratiquer en musique, ça aide à trouver une respiration plus régulière, plus calme? Ou est-ce que parfois on peut avoir du mal à s'ajuster? Parce que finalement, est-ce qu'on cale du coup ces mouvements sur la musique ou sur la respiration quand on pratique de cette façon-là?
Je fais des exercices de pranayama au début des cours pour justement leur apprendre au fait que c'est la respiration qui va faire que le geste pourra être bien fait et pas le geste qui doit amener la respiration. Et c'est un exercice très difficile. C'est très difficile parce que du coup, je donne deux informations essentielles à la bonne conduite d'un flow. Et quand on n'a pas l'habitude de pratiquer, que ce soit avec moi ou juste du vinyasa, c'est beaucoup. Parce que les gens ont une façon de respirer qui n'est pas tout le temps celle que l'on a lorsqu'on pratique le yoga. Au yoga, on va parler de la respiration de feu, le souffle ujjayi. Et cette respiration, elle est exclusive, c'est-à-dire on passe que par les narines. Donc on fait rentrer l'air dans le ventre, dans les poumons, on le laisse ressortir par les narines, il ressort plus chaud. Mais nombreuses sont les fois où effectivement j'ai aidé ou corrigé des élèves à se dire « Non, en fait, tu respires comme ça à tel moment pour engager telle action, telle mobilisation de ton corps ». Donc ouais non c'est pas évident et du coup par dessus avec la musique et c'est là où moi pendant on va dire les deux premières années d'enseignement j'ai passé beaucoup de temps sur le tapis pour montrer comment je respirais et que les personnes comprennent comment elles peuvent respirer dedans dans leur posture.
Oui parce que est-ce que ça arrive que par exemple tu aies des élèves qui se retrouvent essoufflé parce que le rythme de la musique est un peu rapide pour eux et qu'ils essayent de caler leur mouvement sur la musique mais que du coup niveau souffle voilà ils s'essoufflent, enfin ou est-ce que finalement ça se fait assez naturellement?
Alors il y a plusieurs profils mais il y a le profil très général des gens qui font leur flow en apnée. Donc au moment où il faut respirer ils s'arrêtent et ils engagent le mouvement quand même. Et comme je le dis du coup quand je fais des démonstrations de posture ou que je fais une correction générale, je dirais toujours à la fin, et surtout n'oubliez pas, respirez. Parce que les gens s'arrêtent de respirer et on en rigole souvent, hein, parce qu'il va y avoir des cours où je vais dire, alors j'entends beaucoup de mouvements, mais j'entends personne respirer. et du coup, non, ils ne vont pas s'essouffler à cause de la musique. Ils vont s'essouffler parce qu'ils ne vont pas donner l'oxygène tout le temps. Donc forcément, il y a un gros effort qui est fait articulairement, musculairement, mais il n'y a pas d'oxygène. Donc, c'est là que ça devient une épreuve, au fait.
Et finalement, oui, le mouvement doit toujours se faire, soit sur une inspi, soit sur une expi, mais quel que soit le rythme, ça peut être assez rapide, mais du moment qu'on respecte bien cette alternance inspiration-expiration.
Oui, voilà, et surtout qu'il y aura toujours un peu plus de profondeur dans le souffle, malgré un rythme qui augmente.
D'accord. Et alors, pour en revenir à ce que tu nous racontais un petit peu tout à l'heure, comment on construit une séance de yoga en musique ? Est-ce que c'est très différent de la construction d'une séance classique ? Et voilà, toi, comment tu fais ? Est-ce que c'est la musique qui t'inspire, qui va déterminer des postures ? Ou est-ce que c'est l'inverse ? Tu pars d'un flow de certaines postures que tu aimerais proposer et tu cherches le morceau qui va coller ? Comment ça se passe tout ça ?
Eh bien, moi, en fait, c'est la musique qui va construire mon flow. Je pars du principe où il y a une musique qui va m'inspirer, ça va être la première que je vais mettre dans les playlists pour dédier à chaque flow, chaque studio. Donc non, c'est moi, c'est la musique qui va être la base pour construire mon cours. Il y a des musiques qui sont parfaites pour le début. On sait que dessus, il y a une douceur, on peut respirer, s'entendre respirer aussi. Il y en a, elles sont parfaites pour, on va dire, le milieu. Donc sur une heure, par exemple, à 30 minutes, cette musique, elle débarque. Je sais que je vais donner un petit coup de chaud et ensuite on pourra redescendre lentement. Et à contrario, la musique la plus dure parfois à sélectionner, c'est celle de la relaxation, en fait. Parce qu'il faut qu'il y ait des paroles avec le silence qu'il y a dans la salle qui soient, on va dire, en adéquation avec ce qui se passe, à savoir l'immobilité complète. Et du coup, moi, c'est comme ça que je construis mon cours. Je pars de la playlist. Il y a un thème qui en ressort et de ce thème, les postures s'installent.
D'accord, ouais, c'est intéressant. Et oui, tu parles de paroles. Ça, c'était une des questions que je me posais. Est-ce que toi, tu te mets des règles par rapport à ça ? C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours de l'anglais ou peut-être du sanskrit ? D'ailleurs, je ne sais pas si tu passes des morceaux avec du sanskrit ou est-ce que ça peut être des paroles en français ? Et est-ce que le fait de comprendre les paroles, notamment quand on est dans un shavasana, la relaxation finale, ça peut pas être perturbant ? Moi, je sais que si j'entends des paroles, si je les connais et si je comprends ce qui se raconte, ça a tendance à me perturber et je vais me focaliser sur les paroles. Après, je sais que ça dépend des gens. Tu as des gens qui sont beaucoup plus musique que paroles, mais est-ce que toi, tu fais attention à ça, en tout cas ?
J'y fais attention de plus en plus parce qu'au départ j'étais par exemple c'était vraiment des hip-hop je vais pas mentir, un peu énervé c'est des artistes hip-hop que j'apprécie énormément mais qui sont peut-être plus adaptés ça passe en hip-hop yoga mais quand on est un prof qui débute et qu'on a une énergie débordante parfois on fait des flows, en tout cas des retours que j'ai eu de la part de mes amis et de certains élèves on en ressort bien suant donc ça faisait aussi et ça fait encore un peu partie de mon ADN mais quand même à une échelle plus petite là je faisais nettement moins attention aux paroles parce que le rap ça parle pas tout le temps de choses, le rap c'est pas reconnu pour parler des choses cool de la vie.
Non. Oui, et puis ça peut même être des fois, moi je sais que ouais, dans les paroles de rap ça peut être carrément misogyne, des insultes, des choses qui collent pas trop avec le yoga normalement.
Exactement, sauf que je vais pas tout le temps vers ces artistes là ou s'il y en a je vais le citer mais 50 Cent typiquement il est pas réputé pour faire une éloge de la femme dans toutes ses chansons mais il lui est arrivé de faire des featuring qui ont été intéressants parce que ça devient du R&B plus que du rap et dès qu'il y a une femme qui est inclue il y a toujours cette dualité parce que c'est comme ça que fonctionnent beaucoup d'artistes en tout cas aux États-Unis de faire un featuring et ça doit parler d'amour, mais un amour soit impossible ou conflictuel. Et ça, par exemple, je vais réussir à le poser et en observant, parce que du coup, moi, je reste debout, je masse les élèves pendant le shavasana, je regarde des gens s'ils se détendent vraiment, est-ce que, oui, effectivement, le son, les paroles. Et non, au final, ça va, mais en évoluant là-dessus, aujourd'hui, pour revenir sur ce que tu as dit, je fais un cours les dimanches qui est un cours sur les chakras, un mois, un chakra. Alors, je ne vais pas parler d'études parce que ça reste physique, mais en tout cas d'introspection comme on peut à travers des asanas qui sont là pour aider à travailler autour de ce chakra. Je ne vais pas dire rééquilibrage parce que ce serait un bien grand mot et en une heure, je ne suis pas magicienne. Mais voilà, c'est se concentrer sur ce chakra, respirer en fonction de lui et méditer aussi à la fin. Et je sais que le mois qui est passé, donc j'étais sur le chakra sacré qui, pour la femme, a une définition quand même assez importante. Je dis pas que c'est pas le cas pour l'homme, mais j'ai généralement des femmes qui viennent. Le sacré, on est sur la notion de confiance, la créativité, la sensualité, et du coup, on part encore plus sur la notion d'acceptation de son corps et de son être dans son ensemble. Et en créant la playlist pour ce thème-là, j'ai tout de suite accroché avec la dernière chanson d'Iseut, Corps, qui est intense, au fait. Et je l'ai mise à plusieurs reprises, mais pas tout le temps au même endroit. Je l'ai mise déjà au début, au moment où voilà, on est juste en train de respirer, donc on a le temps d'entendre ce son. Et avec ce que j'indique en termes d'informations sur le chakra qu'on est en train de travailler, il y a un accord sur ce qui va se passer. Et je l'ai déjà mise également en relaxation. Et voilà, il est arrivé d'avoir des élèves qui me remercient, qui me disent « mais la playlist, les chansons, elles étaient parfaites à ce moment-là ». Il m'arrive de plus en plus de devoir partager les playlists, donc je prends ça comme alors je vais pas dire un succès parce que c'est pas mon but, mais comme un message qui est bien passé, on va dire ça comme ça.
Oui, c'est vrai que c'est gratifiant si à la fin les élèves te disent tous est-ce que tu peux me donner la playlist, j'ai envie de la réécouter à la maison pour mes pratiques ou...
Voilà, c'est ça. Et voilà, donc
Et est-ce qu'à l'inverse, tu as parfois des réactions un peu, parce que c'est vrai que cette chanson d'Iseult, Corps, elle est très très belle, mais elle peut susciter des émotions fortes vu les sujets qu'elle aborde. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des élèves aussi qui, face à une chanson où les paroles leur parlent, ou même pas, ou juste la musique d'ailleurs peut-être, se retrouvent à se mettre à pleurer, avoir un trop-plein d'émotions vraiment liées à la musique?
Alors, liées à la musique, je sais pas. Par contre, liées à la pratique elle-même, oui. J'ai déjà vu des élèves pleurer à la fin de mon cours, et je les ai accompagnés comme j'ai pu, en tout cas dans, on va dire, l'expression de ces émotions, parce que j'estime qu'il ne faut jamais rien retenir, et parfois on le fait inconsciemment, et il suffit d'une pratique ou peut-être d'autres choses dans notre vie pour que ça se débloque. Mais oui, j'ai déjà vu des gens avoir des émotions très fortes. Est-ce que la musique a aidé à faire ressortir cette émotion? Honnêtement, je n'ai jamais eu encore eu ce retour-là. Par contre, je sais que c'est dû au thème de la pratique. Généralement, c'est quand on ouvre le cœur ou quand on travaille les hanches.
Ouais, logique. D'accord. Et alors, tu parlais aussi tout à l'heure de BPM. Alors, c'est vrai que cette notion de battements par minute dans les musiques, etc., je la connaissais en cycling, parce que les profs qui préparent leur playlist pour le cycling font très attention à ça, mais je ne savais pas qu'on pouvait aussi appliquer ça... en yoga. Donc comment ça se passe, toi? Est-ce que tu fais vraiment attention à ça, du coup, selon le rythme que tu veux donner à telle ou telle séquence?
Eh bien, maintenant, oui. Et encore une fois, c'est grâce à mon amie Naomi, parce que c'est elle qui, quand on faisait nos événements, elle s'occupait de toute la partie playlist. Et elle me dit, voilà, si tu as des musiques que tu as envie de placer là ou là, tu me dis, mais d'abord, il faut que je vérifie les BPM pour l'enchaînement, pour qu'il y ait une fluidité, une continuité, et que ce soit pas trop brut de passer d'une chanson à une autre.
Ah oui, c'est pour les transitions, en fait. Ouais.
Voilà. Et quand elle me disait ça, au départ, j'étais OK. Enfin, j'étais juste passée sur le... Enfin, c'est elle l'experte, et moi j'étais d'accord, et c'est comme ça que je me suis retrouvée à regarder les BPM via Google. Après, il y a des applications dédiées, etc. Mais maintenant, j'y pense quand je fais des playlists. Donc parfois, je vais faire une playlist très rapidement, et parfois, ça va prendre plus de temps, parce que j'ai envie qu'il y ait cette continuité, qu'on imagine plus un cours avec un seul son, même si la playlist est composée de plusieurs musiques, de plusieurs chansons, mais que les BPM soient tellement très près les uns des autres qu'il y ait encore une fois cette fluidité qui va dans le sens de la fluidité des mouvements que j'ai envie d'amener dans le flow.
D'accord. Ben oui, ça doit être un sacré boulot. Du coup, j'imagine que ça prend sans doute encore plus de temps de préparer à une séance de yoga en musique qu'une séance classique, du coup.
Alors oui et non. Oui et non, dans le sens où... avec les années, je suis un peu comme les mèmes qui expliquent que la génération des années 90 aime bien écouter la même musique tout le temps et ne pas se mettre à jour. Si ce n'était pas d'ailleurs pour Naomi, qui est journaliste musicale, moi, je ne serais pas à la page comme ça sur la nouvelle scène R&B internationale et française. Hein. Donc parfois, ça va prendre du temps, parce que justement, je vais me pousser à aller chercher des choses neuves, des choses qui je n'ai jamais écoutées, donc je les écoute avant de me dire « ah oui, ça ». Parfois, c'est en espace de 30 secondes, je sais que ce son, je l'aime et je sais déjà que je veux le placer. Mais il m'arrive bien souvent d'aller chercher des choses qui sont dans ma bibliothèque et qui sont sous la poussière des années passées, parce qu'il y a des sons pour moi, encore une fois, il y a toute la notion d'émotion, qu'est-ce que ça ramène en moi, qu'est-ce que ça rappelle. Donc ça dépend. Ça dépend si j'ai envie de faire un flow justement dédié aux années 90 ou si j'ai envie de faire quelque chose avec des musiques de films intercoupées entre du R&B. Voilà, je...
Oui, oui, oui.
Ça va être aléatoire. Ouais.
Et est-ce que tu aurais d'ailleurs un morceau qui serait dispo sur Spotify et que je pourrais mettre à la fin de cet épisode que tu aimerais faire écouter à nos auditeurs et qui serait parfait pour un petit flow de yoga ou pour une relaxation, je sais pas.
Alors en ce moment j'aime beaucoup une reprise au fait, enfin je sais même pas si c'est une cover parce que c'est Snow Allegra qui la chante, c'est Lost You, qui est un Spotify single, et au fait, c'est comme un remix de Lost You, la version, on va dire, originale qu'elle a sortie cette année, et voilà, c'est lent, c'est profond, c'est doux, mais il y a une basse quand même présente dans ce son, donc pour pratiquer, au départ, je pense que ça peut être une chanson intéressante, parce qu'il y a de la lenteur, mais ça n'empêche pas de faire des choses... plus, on va dire, péchu dans sa pratique.
D'accord, et bah super, on écoutera ça à la fin de l'épisode. En attendant, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut pratiquer avec toi si on a envie de faire du yoga en musique ?
Eh bien, je suis sur pas mal de studios, enfin pas mal, ça se compte sur les doigts d'une main, mais alors je suis chez Bromance Panam en semaine, les mercredis et les vendredis à 7h30.
Ouais, donc à Paris, hein, tu es à Paris.
À Paris, et le dimanche, du coup, toujours à Bromance Panam à 18h. Ensuite, il y a la Montgolfière Club, mais c'est un club, donc
je crois que c'est
un événement, des choses comme ça, mais j'y suis de mercredi soir à 19h30 et le vendredi à 13h15. Il y a, depuis la rentrée, Bloom Studio, qui est un magnifique studio de méditation dans lequel, là, je donne des cours les mardis à 12h40 de Flawless Yoga et Thai Massage. Je me suis formée l'année dernière au massage thaï et au fait, c'est un cours hybride où on va faire du vinyasa avec, on va dire, un niveau accessible parce que je ne vais pas faire un full vinyasa, mais il va être très entrecoupé au fait de périodes de pause dans des postures particulières pour recevoir un extrait de massage thaï.
Très sympa, ça donne envie.
Oui. Et après, il y a aussi Baba Yoga Club. Donc, j'y suis les lundis à 12h40 et les jeudis à la même heure, 12h40. Il y a le Tigre Yoga Club dans le 16e à Paris. Donc, le Tigre Chaillot, les lundis à 9h45. Et là, c'est 1h15 de pratique. Il y a Slow Wellness House dans le 10e également. Donc voilà, j'y suis les mercredis à 12h30. Et juste avant les mercredis aussi, chez Gynécée, et là pareil, un lieu magnifique qui est dédié à la femme. C'est la maison des femmes. Gynécée, je m'occupe des futures mamans pour un flow prénatal Flawless Mama.
On peut retrouver tout ça sur ton site ?
Sur mon site, sur Instagram et en me posant la question.
Ok, super. Bah, je mettrai évidemment toutes les infos et les liens pour te joindre en description du podcast.
Super.
Et bah, merci beaucoup Aurélie pour cet échange musical autour du yoga.
Avec grand plaisir et merci à toi Laura. C'était un superbe échange.
Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si vous écoutez sur Apple Podcasts ou Podcast Addict, à me laisser un commentaire et 5 étoiles, ça m'aide vraiment à le faire connaître. Je vous laisse donc avec Lost You de Snow Allegra, le morceau choisi par Aurélie pour une belle pratique de vinyasa.